bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous Guillaume?
Eh bien, très bien. Et vous? Et vous-même?
On entend des voix, c'est dommage. Hein. On entend des voix, il y a des voix qui transmettent.
Oui,
des
voix de l'au-delà en fait.
Des voix de l'au-delà.
Exactement.
De l'eau d'ici. Alors, Guillaume Sidom, vous m'avez dit comment vous y allez?
Où?
Comment vous allez?
Ah, comment, j'ai entendu, comment vous y allez?
Alors, peut-être l'ai-je dit aussi, parce que
je viens en métro.
Il y a des gens qui sont dissipés dans le...
Oui, alors, ben ça va très bien.
Ça va très bien, on entend des rires.
Oui, 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 il y a de l'activité, il y a de la vie.
Il y a de la vie. C'est bien la preuve que nous sommes en direct.
Tout à fait.
Ou alors, ça crie, hein?
Eh ben, vous voyez.
Mais ça crie, hein?
Bon, ben, c'est drôle. Mais toute la soirée va être comme ça jusqu'à 20h. C'est un peu bousculé et bousculant. Bon, alors, Guillaume Sidom, ce soir, vous êtes en charge de plein de belles choses.
Oui.
Parce que notre Laurent Martin a eu un mot d'excuse de la part de ses parents. Et il peut... Attendez, je vais couper le micro. Voilà,
oui.
C'est plus simple. J'y suis arrivé.
J'espère qu'elle va pas couper le mien. Parce que sinon, je vais avoir du mal à parler.
Bon,
enfin bon.
Alors, Guillaume Sidom.
Oui, alors ce soir, 5 films à voir à la télé depuis son canapé cette semaine.
Oui.
Un conseil Blu-ray et si on a le temps, une revue de cinéma qui fête ses 50 ans à vous conseiller.
Oui, bien, il y a plein de belles choses donc prévues.
On va essayer.
Il y a un petit mot aussi de la part de notre Grégory Combe qui,
oui,
comme à l'accoutumée, nous poste son petit billet d'humeur concernant les séries. Vous le savez que tous les mercredis, il ouvre le tribunal des séries et ça c'est bien. Et dans son tribunal, ce soir, notre homme de loi parlera de Fallout, la série qu'on peut voir sur Amazon Prime. Et c'est de la saison 2 en particulier qu'il va vous parler. Avec nous également, il y a Laetitia Debord. La prochaine fois,
oui.
La prochaine fois, on fera l'appel avant.
Oui,
on fera l'appel,
oui,
avant.
Oui.
Laetitia Debord, à qui Guillaume Sidom, vous avez confié les clés de votre retour de Manivelle et surtout de votre atelier.
Ah, mais je lui prête avec plaisir.
Alors, d'abord, Laetitia, comment allez-vous?
Ça va bien, Louis-Marie.
Ça va. C'est-à-dire que vous allez comprendre, nous avons une invitée dissipée, vous comprendrez mieux quand je vous aurai dit son nom, pourquoi elle est aussi dissipée. Laetitia Debord, de quoi allez-vous nous parler? Faites-nous rêver.
Ah, bon, on l'a annoncé mort, en fait, hier dans les médias, d'ailleurs.
Hein. Ah
dans
oui
les bombardements en Israël, oui.
Ah
oui,
bon,
c'est un sacré personnage, assez fantasque, Monsieur Tarantino.
Oui. Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Et ce soir, dans le panier de l'ouvreuse, il y aura l'actualité de la semaine que vous allez ausculter avec l'ouvreuse Guillaume Sidom.
Et tout à fait, avec plaisir.
Et puis, nous parlerons des reprises sur le grand écran, avant de parler de celles sur le petit, mais ce sera avec vous, je le rappelle, Guillaume. Et puis, en fin d'émission, il y aura des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Bon, alors, maintenant, voyons si tout est rentré dans l'ordre, si les fils sont bien posés, si les boutons sont bien tournés, et je vais lui céder la parole. Avec nous, il y a Simone Dompère. Bonsoir, Simone.
Je veux bien, mais m'entend-on? Parce que moi, je n'entends rien.
Mais si, on vous entend bien.
C'était mon chiffre, le 5.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut...
Il y a des numéros, vous savez qu'il y a des numéros.
Mais ils m'ont dit que j'étais le 3.
Non.
Voilà, c'est pour cela.
Non.
Le 5 est ma date de naissance.
Ah, voilà, c'est un signe.
Donc c'est mon signe.
Pas le 5 mars.
Non, le 5 avril.
D'accord.
J'ai jamais su si c'était les cloches de Pâques ou pas.
Bon, alors Simone, oui. Vous êtes là pour notre
oui,
rendez-vous. On l'a compris. Vous êtes là pour notre rendez-vous annuel, celui qu'on a avec vous, bien sûr.
Oui, qu'on peut avoir que non.
Oui. Vous venez parce que vous êtes, je le rappelle, la directrice artistique de Traverse Vidéo, qui propose du 11 au 31 mars prochain ses 29e rencontres internationales. Ça fait pas mal de bougies à souffler. Et la prochaine édition...
Ça fera 6 fois 5.
Oui. Vous viendrez avec le gâteau, nous soufflerons ensemble.
Pourquoi pas, mais alors pour les auditeurs, on va les...
C'est pas grave avec ce qu'ils vivent avec vous chaque fois, avec ce début d'émission.
Oui, en plus, il y a des
chamallows. Très bien.
Oui.
Alors, de Pâques. Rappelez-nous, Simone Dompère, ce qu'est Traverse et Traverse Vidéo. Alors, c'est Traverse Vidéo ou Traverse ?
Alors, c'est-à-dire qu'au départ, c'était Traverse Vidéo, mais comme, quelle que soit l'affiche, les papiers que nous fassions, cinéma expérimental, installation, photographie, performance, on me dit « Ah, c'est que de la vidéo !» Alors, je dis « Mais lisez, c'est du cinéma expérimental, du cinéma, pellicule, et nous faisons le grand écart, comme la jeune femme, de notre visuel. » Vous le voyez, il est sur le pont des Catalans, dans une grande affiche. Donc, le grand écart de la pellicule, 16, Super 8, 35, à l'IA. Donc, c'est du cinéma. Moi, j'emploie le mot film.
Oui.
Mais lorsque on disait vidéo, c'était au sens d'avoir des visions. La vidéo simplement sur le signal magnétique. Et c'est pour cela qu'on a tendance à dire traverse. Mais notre association s'appelle Traverse Vidéo. Et s'il fallait faire tous les papiers pour changer, nous en restons à Traverse Vidéo pour l'association. Mais les rencontres, ce sont des rencontres, ça j'y tiens vraiment beaucoup. Il y a plus de 50 artistes, donc deux qui viennent d'Ukraine. Je suis ravie de les faire sortir de leur environnement. Des dissidents biélorusses, mais aussi des Canadiens, des Anglais... très italiano questo anno, mi piace molto, dirlo. Donc des Italiens, dans tous les pays, donc c'est vraiment international, c'est pas un mot lancé comme ça, traverse, puisqu'on continue à aller d'un médium à l'autre, sans ostracisme, c'est rare.
Hein. Ça, voilà. C'est à souligner.
C'est plus qu'à souligner, c'est à applaudir.
Ah ben oui, on applaudit fort. Vous nous entendez, on applaudit très fort.
Absolument, l'applaudissement silencieux est tellement beau en expérimental.
Oui.
Parce que nous aimons les silences aussi.
Guillaume Sidom.
Oui, je voulais savoir, Simone Dompère, quelle place justement on occupe, nous, spectateurs, dans votre démarche artistique et quelle expérience vous souhaitez proposer à ce dernier ?
Alors, les rencontres s'appellent rencontres aussi parce que les artistes ne sont pas séparés des publics. J'emploie le mot au pluriel. Parce qu'on n'écoute pas pareil, on ne sent pas pareil, on n'a pas les mêmes attentes et on peut venir en connaissant le cinéma expérimental, en ne le connaissant pas du tout. Donc, par ailleurs, nous avons, et j'en suis ravie, nous sommes peut-être les rares, à avoir toutes les classes sociales et tous les âges. Vous qui venez, vous le savez. Les entrées sont gratuites pour ce faire, hein, ou pour le faciliter. Et donc, il y a déjà cela, les rencontres. Il y a rencontres aussi, puisque nous proposons au public d'écrire, de prendre des photos, voire de filmer. Et si vous voulez faire des interviews, il faut nous dire très tôt pour demander aux artistes et ceux qui sont là. Et si le texte, l'image, la photo, ça peut être aussi un dessin, donc sont retenus, ils paraissent sur notre site et dans le livre que nous éditons chaque année. Ce sont aussi des rencontres entre les artistes, puisqu'ils viennent de tous ces pays-là. Et que parfois il arrive que certains puissent ainsi faire des travaux ensemble. Et puis ce sont des rencontres parce qu'on n'a pas l'habitude, même à Toulouse, où il y a pourtant un très grand festival, mais on n'a pas cet art pointu qui oblige à faire une démarche. Et puis nous avons des œuvres qui impliquent réellement les spectateurs. Il y a ce don de cadeau à travers de sculpture, à travers la ville, le vendredi soir. Il y a une œuvre, une nature morte, qui lorsque vous approchez se vivifie, donc renaît. Et il y a une autre où, si vous approchez votre téléphone, il y a un tout petit A à côté, donc vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de gigantesquement sophistiqué. Et là, c'est la voix de Delphine Seri que vous entendez, ou les images qui viennent en ectoplasme de Mariem Bad. Et pour un autre, ce sont les mots de Nosferatu aussi, donc on est là vraiment dans ce cinéma-là aussi, puisque je répète toujours que je suis archéocinéphile et c'est pour ça que j'aime l'expérimental. Et je pourrais en parler longuement. Je peux venir d'autres jours hein, pour expliquer tout cela.
Mais donc... Oui. Il vous faut du temps, nous le savons.
Et rencontre aussi, donc il y a comme cela des œuvres qui réclament votre présence.
Donc oui. Le spectateur est actif.
Alors, même j'ai repris ce vieux jeu de mots pas très malin, mais que j'utilisais il y a longtemps, spectateur. Je l'ai ressorti de mes vieux textes lorsque je disais ça aux étudiants.
Eh bien, nous continuerons à parler avec vous au cours de cette émission, puisque vous restez avec nous jusqu'à 20h. Simone, nous parlons du thème de cette année, mais on commence par... partir dans l'atelier de la mécanographie cinématographique. Je ne sais pas si tout ça est dans le bon ordre. En tout cas, vous allez le comprendre tout de suite avec Laetitia Debord.
Tarantinesque. S'il fallait choisir un seul mot pour le définir, cela serait celui-ci. Perçu comme provocateur, excessif, débordant, incontrôlable, il fait partie de ces réalisateurs qui ont su créer leur propre style comme une marque déposée. D'origine italienne, irlandaise et cherokee, la diversité coule dans son sang. Son cinéma subversif interpelle, adepte de longues tirades qui décoiffent et d'ultra-violence. Il nous peindrait des toiles à l'hémoglobine, à l'image de la scène de danse torture improvisée par le personnage Mr. Blonde, joué par Michael Masden, acteur qui nous a quittés cette année. I'm so scared in case I fall off my chair. Down the stairs, clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm... Il manie l'uchronie, façonne ses films avec des événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Inglourious Basterds ou encore Once Upon a Time in Hollywood en sont une parfaite représentation. Autodidacte, il abandonne le lycée à 16 ans pour devenir acteur comme son idole John Travolta. Il le remet sur le devant de la scène en lui confiant le rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction en 1994. 7 nominations aux Oscars, il décroche celui du meilleur scénario original. Il se construit et détermine son genre cinématographique lors de ses années passées à travailler au Video Archive, vidéoclub de Los Angeles. D'ailleurs, lorsque l'enseigne met la clé sous la porte en 1995, QT décide d'acheter tout l'inventaire vidéo et de reconstituer le magasin dans sa maison. Il démarre en fanfare avec son premier long Reservoir Dogs, sorti en 1992. Mr. White, joué par Harvey Keitel, en financera une grande partie. Quant à Mr. Orange, sous les traits de Tim Roth, après quelques verres partagés avec Tarantino, obtient sa place en fait en toute insouciance suite au fait d'être éméché et avoir prêté le jeu de la lecture. Qui pourrait croire que McDo a servi d'intermédiaire pour le choix définitif du titre ? Pour l'anecdote, QT présent dans un de ses restaurants franchisés pose son scénario sur le comptoir lorsqu'il souhaite récupérer sa commande de Big Mac. Un des serveurs lui dit alors « Reservoir Dogs, c'est un titre génial mec, j'irai voir un film qui s'appelle comme ça ». Comme quoi, Donald avec son nez rouge peut contribuer au succès d'un film. Ce titre est parodique et s'inspire d'Andalusian Dog, long-métrage réalisé par Bunel. Il crée sa boîte de production Band Apart en reprenant sa bande de loulous vêtue tout de noir pour le logo et rend hommage à Jean-Luc Godard pour le nom qui est issu d'un de ses films. Petit clin d'œil à ma précédente chronique sur le réalisateur Albert Dupontel, Tarantino a joué dans 3 épisodes de la série Alias sous le nom de McKenna Scroll, un vilain rappelant l'univers de Piège de Cristal. Dans le cadre de la Galaxie Kurosawa organisée par la Cinémathèque de Toulouse, je vous invite à découvrir le film Django Unchained, sorti en 2012, ce lundi 9 mars à 19h30 au Pathé Wilson. Et Télérama en pense du bien.
Hein ? Pour une fois.
Voilà. Dans la lignée des Western Spaghetti, nous voilà propulsés 2 ans avant le commencement de la guerre de sécession. Christoph Waltz, qui, rappelons-le, a gagné 2 Oscars en tant que meilleur acteur dans un second rôle avec les films Inglourious Basterds et Django Unchained, c'est peu dire. Campe un ancien dentiste allemand, Dr. Kinschultz, qui s'est reconverti en chasseur de primes. Il décide de devenir propriétaire de l'esclave Django, joué par Jamie Foxx, et lui propose ainsi un marché. Il peut retrouver sa liberté et sa femme Bromilda, jouée par Kerry Washington, faite prisonnière sur l'immense plantation du richissime et sans scrupules Calvin Candy. Rôle tenu par Leonardo DiCaprio, il doit pour cela l'aider à capturer mort ou vif les frères Brittle, des meurtriers avérés. Le servant fidèle de Maître Candy nommé Stephen, campé par Samuel Jackson, est déstabilisant et ne laisse pas indifférent. L'art de tourner en dérision et au ridicule le Ku Klux Klan restera un moment cinématographique d'anthologie. Magnéto,
mon Dieu. Je vois que dalle à travers ce champ.
Bon, on y va là ou pas?
Oui, bah attendez que je bricole mes trous de digne.
Oh. Oh merde.
Oh, j'ai tout déchiré.
Qui c'est qui nous a fait des merdes pareilles?
C'est la femme à Willard.
Bah t'avais qu'à te la faire ta cagoule, putain.
Je terminerai en citant Mr. Tarantino. Oui, mes films sont violents, mais les spectateurs sont prévenus. Les gens qui vont voir Metallica demandent rarement aux musiciens de baisser le volume.
Voilà la mémoire vive for bass clarinet and live electronics de Rebecca Minten, qu'on pourra entendre grâce à vous, Simone.
C'est bien d'avoir choisi cela.
Hein? C'est une particularité, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que en fait, il y a eu des captations de ce morceau de musique assez extraordinaire, mais ce qui fait l'intérêt, c'est qu'elle ne l'interprète qu'en public. En fait, il faut la voir jouer.
C'est une performeuse.
Exactement.
Et de plus en plus, certains sont vraiment investis dans la musique, préparent leurs instruments, comme John Cage avait fait avec le piano.
Oui.
Donc, il y a une très très bonne lignée. L'année dernière, c'était quelqu'un qui jouait avec un violon préparé, une Toulousaine. Cette année, elle vient de Suisse et ça sera au Cordelier.
Oui.
Et effectivement, on peut l'entendre que dans ces moments-là. Moi, je l'avais bien sûr, quand il m'envoyait sa proposition, elle m'avait envoyé des fragments. Et ça ne veut pas du tout dire que ce sera ce qu'on entendra, puisqu'elle invente, elle est dans la performance.
Oui, elle joue essentiellement de la clarinette basse.
Voilà, tout à fait, c'est étonnant.
C'est une clarinette étonnante, la clarinette basse. Ce son assez extraordinaire. Mmh. Et il y a aussi de l'électronique.
Tout à fait.
Alors,
et dans la même soirée, il y aura de l'opéra, Purcell.
Oui, c'est Rebecca. Rebecca Minten, c'est Mémoire Vive, c'est Marlène Gaston-Épité.
Voilà, qui elle est toulousaine, qui est au Beaux-Arts, au Conservatoire.
Oui.
Et je cherche chaque année à voir cet opéra baroque, puisque même combat avec l'expérimental, c'est pour l'élite, pour ceux qui comprennent. Que ceux qui comprennent, personne ne comprend, etc. Et moi, je suis une amoureuse absolue du baroque. Mais je dansais le rock autrefois.
Oui, mais avec des bas peut-être, des hauts également.
Ne parlons pas de cela, s'il vous plaît,
non,
monsieur.
Non, mais je vous en prie, Simone.
Enfin, nous sommes à Radio Présence.
Ah, exactement.
C'est ça.
Immatérialité et geste. Alors, avec le IM entre parenthèses, voilà le thème de cette année pour les 29e rencontre internationale traverse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette immatérialité?
Alors, en raccourci, c'est ce schéma, non pas un schéma, cette constante recherche dans l'expérimental qui prend l'image, mais qui ne la prend pas comme une vérité intangible, arrêtée, quelque chose qu'on ne pourrait pas bouger, et qui est constamment dans cette recherche de le refaire, de la transition, de la transformation. Donc on est plutôt dans le trans que dans l'arrêté. Ouais. Donc l'art expérimental, il est dans cette vague-là, dans cette vogue-là. Et c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Parce que, bien évidemment, il y a du matériel, et là nous sommes en train de monter, je vous promets que c'est très compliqué.
très compliqué. On imagine. Oui.
Voilà, donc il y a toute cette nécessité technique, mais ensuite pour des images inouïes. Je dis bien inouïes, parce que l'esprit, le son et l'image sont absolument paxés dans l'expérimental.
Guillaume, c'est
oui, justement le son et l'image. Est-ce qu'on peut dire justement que la vidéo transforme le geste en quelque chose d'immatériel en modifiant la perception du geste?
Alors, pas le geste, mais il n'y a pas de film s'il n'y a pas le geste créateur. Autrement dit, beaucoup ont peur de l'IA, mais il n'y a pas à avoir peur de l'IA, parce que si ce n'est pas un réalisateur qui a déjà pensé, qui est déjà dans cette gestuelle du montage, parce que souvent ce sont des images qui sont retenues, il n'y aura pas de film. Donc, geste qui est aussi indispensable dans la performance, geste qui est, comme on parlait de la musique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oublie trop qu'il y a le faire. Même dans l'immatérialité la plus totale de l'art actuel, il y a le faire. Et moi, je reviens toujours à cet humain que nous sommes, qui peut faire n'importe quoi, hélas, mais qui aussi crée. Mais la création, c'est de l'évanescence. C'est quelque chose qui ne se touche pas, qui est déjà passé, même René. Alors, on pourrait dire qu'il est expérimental aussi. Mais donc, il est dans ce chemin de la mémoire. Si j'oublie pas un petit peu de l'image d'avant, je peux pas voir la précédente, celle-là. Et si celle-là ne rejaillit pas un peu sur celle qui va venir, il n'y a pas cette lignée. Mais l'expérimental, il coupe. Il montre comment ça fonctionne. Et là, je travaille pour notre rencontre à Ombre Blanche, et c'est cette question-là. Beaucoup d'artistes s'approchent de la nature, mais pas comme... Vous devez vous souvenir que quand on avait demandé à Baudelaire d'écrire des poèmes sur la nature, il avait dit « j'écris pas sur les légumes sanctifiés ». Donc c'est pas cette nature-là. C'est pas cette nature-là arrêtée. C'est pas le paysage avec les limites. C'est au contraire cette constante évanescence où on laisse l'être, enfin la plante, les objets venir. Et puis après ça part. Donc on est dans ce passage constant. C'est un peu compliqué. Il faudrait un peu plus de temps pour le développer. Mais c'est ceci, ce passage. On est déjà autre. Mais si on n'agit pas, on stagne. Donc la vie, le fluide, il est dans ce geste-là. Et je dirais que l'art nous rend plus vivants. Et dans l'expérimental, a fortiori.
On continue notre conversation. Passionnante, s'il vous plaît.
Merci.
Et on reprend le fil, je le disais, de l'émission pour retrouver le panorama des films de la semaine.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Alors Guillaume, qu'est-ce qu'il faut voir ?
Eh bien l'affiche cette semaine, La Maison des Femmes, premier film de Mélissa Godet avec Karine Viard, Laetitia Doche, Ay Aldara, Juliette Armanet, un film utile, drôle, émouvant, qui donne envie de croire, inspiré de la première maison d'accompagnement des femmes victimes de violences. Je vais y revenir, elles se prénomment donc Diane, Inès, Awa, Lucie ou encore Rosène. Elles accueillent, écoutent et accompagnent ces femmes avec détermination, humanité, solidarité. Malgré leur propre fragilité et les risques pour leur équilibre personnel, le film suit donc le quotidien d'une équipe pluridisciplinaire travaillant dans une maison des femmes, un lieu d'accueil, de soins, d'écoute et de reconstruction pour des femmes victimes donc de violences. Le scénario s'inspire des actions réelles des maisons des femmes en France, notamment celle fondée à Saint-Denis en 2016 par la gynécologue Gada Hatem, lieu pionnier d'accompagnement des victimes de violences physiques, psychologiques et donc sociales. Le film, ne se contente pas de narrer des violences, il va mettre en lumière l'accompagnement et la solidarité autour des victimes, valorise le travail des soignants et professionnels engagés et interroge de manière empathique la nécessité des lieux d'écoute et de soutien pour les femmes. Cette approche sociale, tout en restant cinématographique, le place comme œuvre utile et engagée, particulièrement pertinente dans le contexte actuel des discussions sur les violences sexistes et sexuelles. Notons le casting fougueux du film. Laetitia Doche, fragile, insubmersible, Ay Aldara, rageuse, le duo Oulaya Amamra, Oratika, fille et donc mère à l'écran, évidemment Karine Viard en chef qui réjouit par sa force de conviction. Aujourd'hui, il y a 31 maisons des femmes dans toute la France. La Maison des Femmes, un film à vocation populaire, qui prouve que l'émotion au cinéma peut devenir d'utilité publique. Revue de presse autour du film, magnifique, vibrant, bouleversant, selon Le Parisien, et de souligner l'authenticité du regard porté par la réalisatrice Mélisa Godet et la force des personnages, notamment l'intégration d'une étudiante en médecine qui découvre ce monde exigeant. Avoir à lire a beaucoup aimé également. Le film est utile et enthousiasmant, éloignant la violence des images choc pour la tourner vers la résilience et la reconstruction. Même tonalité selon les fiches du cinéma, avec son premier long métrage, Mélisa Godet signe une œuvre chorale puissante qui transforme la douleur en courage collectif. Petit bémol pour l'Obs, à la décharge de la réalisatrice, le projet est un peu lourd pour un premier long métrage. Le film est visible à l'ABC à Toulouse. À l'affiche aussi cette semaine, Alter Ego de Nicolas Charlet et Bruno Lavène, avec Laurent Lafitte récemment césarisé, Blanche Gardin, Olga Kurylenko. Alors Alex a un problème, son nouveau voisin et son sosie parfait mais en mieux, avec des cheveux, un double qui va totalement bouleverser son existence. Une histoire de double telle que les affectionnent les deux réalisateurs plus connus, hein, sous leur pseudonyme Nicolas et Bruno, quand ils officiaient sur Canal+, Lafitte et donc Alex, et Axel, son sosie et nouveau voisin. Axel est une version parfaite d'Alex. Il a la même maison, mais décorée avec plus de goût. Une femme dont tous les hommes tombent amoureux. Il est un leader naturel que tout le monde admire et surtout ne subit pas encore les tourments de la calvitie comme nous deux, n'est-ce pas, cher Louis-Marie? L'univers de Nicolas et Bruno reste délicieusement absurde, avec ses détails incongrus et dérangeants, tels la fine moustache de Zabou Breitman, la patronne au perché de la Cogip, ou la permanente capillaire de Marc Fraise, hilarant en collègue de bureau maladroit, leur fantastique de l'intime désormais plus empathique à l'égard de leur personnage né d'un dérèglement progressif au quotidien. Alex est donc le seul parmi tout son entourage à voir qu'Axel est comme un frère jumeau. Laurent Lafitte, lui, stupéfie par son travail sur le corps autant que par les variations subtiles de sa diction dans ce double rôle, à la fois burlesque et inquiétant, avec une scène d'anthologie quand l'acteur joue Alex qui se querelle et se bat avec Axel dans un long plan séquence, clin d'œil évidemment au dialogue inaugural d'Argan avec lui-même dans Le Malade Imaginaire. Revue de presse autour de ce film, selon Les Incorruptibles, un film brillant et audacieux qui tient le spectateur en haleine du début à la fin. Même impression du côté de Télérama. Le film ne se contente pas de jouer sur les ressorts du thriller psychologique. Il va questionner la dualité de l'être humain avec une subtilité remarquable. Pour Le Monde, Alter Ego est une exploration intense des ténèbres de l'âme humaine. La performance de Laurent Lafitte est à la fois touchante et dérangeante. Alter Ego est donc à voir à l'Utopia Bordeaux Rouge. À l'affiche aussi The Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal avec Jesse Buckley et Christian Bale, une réinterprétation du mythe de Frankenstein des années 30, à découvrir à l'UGC Montaudran. Deux femmes et quelques hommes de Chloé Rochibeau, à découvrir au cinéma ABC à Toulouse. Pillion, signé Harry Lington, à découvrir au CGR Le Paris à Montauban et à l'Américaine Cosmographe. Christie de David Mitchell, inspiré d'une histoire vraie, le portrait de la boxeuse américaine Christie Martin, de sa vie dans une petite ville jusqu'à ses premiers combats qui changent sa vie, visible lui au pâté la beige. Trois documentaires aussi cette semaine à l'affiche. On va commencer par Rural, d'Edouard Bergeon. Ce dernier, à qui on doit notamment Au nom de la terre, nous plonge ici, eh bien, dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité, avec humour et tendresse. Il va dresser un portrait sensible de l'agriculture familiale française d'aujourd'hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer, à voir au Grand Palais à Cahors et à l'Américaine Cosmographe. Fantastique, de Marjolins Prince, le portrait de Fanta, une jeune contorsionniste de 14 ans en Guinée, entre ambition et réalité quotidienne, à découvrir au cinéma ABC à Toulouse. Véronique, documentaire musical autour de la chanteuse Véronique Sanson, riche en archives, en intimité, visible seulement les samedis 7 et mardi 10 mars au CGR Montaudran, Blagnac, Rodez et Kinépolis Fenouillé. Et enfin, deux films d'animation, Ala n'est pas obligé, à voir à l'Américaine Cosmographe, et Jumpers des studios Pixar.
Maggie Gyllenhaal voulait la musique à la hauteur des images qu'elle propose dans The Bride. Et oui, cette musique, eh ben, vous l'avez compris, vous avez entendu la voix, si et si et si Björk avait une cousine suédoise. Eh ben, elle s'appellerait Fever Ray, c'est son nom de scène. Sinon, son nom à la ville, c'est Karin Dregen. Et puis aussi, pour la musique, c'est une Islandaise qui compose. Ildir Gugnadóttir, ils s'appellent tous Dóttir quand c'est des filles. Arlson quand c'est des garçons. On s'en va dans un monde post-apocalyptique avec notre homme de loi des séries, Grégory Combe, qui va nous parler de Fallout, la série qu'on peut voir sur Prime Video, et c'est la saison 2 sur laquelle il revient.
Je déclare l'audience ouverte.
Pierre-Louis-Marie, aujourd'hui je vais vous parler de la saison 2 de Fallout, la série post-apocalyptique sur Amazon Prime. Dire que cette série était attendue est un euphémisme. La première saison avait vraiment marqué les esprits et tout le monde attendait la suite des aventures de nos survivants de l'apocalypse nucléaire, malheureusement sujet un peu trop d'actualité actuellement. Je vous résume rapidement les enjeux de cette série et je ne vais pas trop spoiler la saison 1 et donner les enjeux de la saison 2, mais en laissant quand même beaucoup de découvertes aux gens, parce que, encore une fois, c'est une série que je recommande fortement. Et ceux qui n'ont pas découvert la saison 1, j'espère que vous pourrez la regarder. Fallout, c'est un univers inspiré d'un jeu vidéo à succès qui met en scène l'humanité qui sort d'abri antiatomique après une guerre nucléaire qui a ravagé le monde et qui découvre finalement que certains survivants restés à la surface se sont organisés tant bien que mal. C'est clairement inspiré de Mad Max, avec toujours ce savant mélange et un équilibre très respecté entre la noirceur, des questions philosophiques sur l'humanité et de l'humour assez décalé. D'ailleurs, Fallout a un style très très particulier, c'est-à-dire qu'il s'inspire de l'univers qu'on appelle rétro-futuriste, c'est-à-dire que c'est dans le futur, mais un futur comme on le voyait dans les années 50, c'est-à-dire que c'est pas du futur classique, c'est vraiment les designs de l'époque, les robots ménagers comme on pouvait le voir dans les années 50, donc ça donne un ton et une patte particulière. Je rassure aussi tout le monde, il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux jeux vidéo. Ceux qui auront joué aux jeux vidéo vont être très contents parce que ils vont avoir des clins d'œil, des anecdotes, mais clairement, tout le monde peut le regarder sans aucun problème. C'est une histoire qui se suit et qui est complète. Pourquoi Fallout est un succès? Bon, déjà, la réalisation est excellente. Les scènes d'action sont très bonnes, les scènes intimistes sont très bien filmées. Le trio d'acteurs principal est vraiment, vraiment au niveau. Et surtout, c'est l'écriture et le scénario. C'est-à-dire qu'on suit vraiment deux intrigues. À la fois, ceux des survivants qui sortent des abris et qui découvrent le monde comme il est, mais on suit aussi l'intrigue dans le passé. Qu'est-ce qui amène à la guerre nucléaire? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on donne du contexte. On explique. Et malheureusement, ce qui se passe est très proche de ce qui pourrait arriver dans la réalité et fait froid dans le dos, même si évidemment il y a un complot, tout ça. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous spoiler. On va suivre en particulier trois personnages, une survivante de l'abri qui sort et qui découvre pour des circonstances particulières le monde, un autre personnage qui est rattaché à la confrérie de l'acier, une confrérie militaire qui a survécu à l'apocalypse et qui cherche à récupérer les technologies du passé, et qui elle-même a plusieurs visions théologiques et doctrinales en son sein, et une goule. Une goule, c'est un humain frappé par les radiations et qui est devenu une sorte de cadavre ambulant, mais qui réfléchit et qui, en fait, se prend pour un cow-boy. Oui, c'est assez particulier, c'est ce personnage qui est le mieux écrit, évidemment. pourquoi cette saison, elle est réussie? Elle est réussie parce que tout simplement, on va plus loin dans l'explication, on a des réponses, enfin. C'est pas une série qui va nous reporter les réponses de saison en saison. Non, on a des réponses qui arrivent et c'est pas juste, tiens, vous avez votre réponse, vous êtes content. Non, ça permet d'installer les enjeux futurs et on voit clairement que la série a été écrite à l'avance. Et donc là, à la fin de la seconde saison, on sait ce qui s'est passé, on sait qui sont les vrais antagonistes et on passe sur une deuxième partie de série qui sera à partir de la saison 3 sur la vraie menace. Et c'est extrêmement bien fait et bien teasé. C'est aussi une série qui respecte le matériel d'origine. Trop souvent, quand on s'inspire d'une franchise, on tente de la réécrire, on tente de la moderniser. Et en fait, on l'aseptise. Là, pas du tout. On glorifie cette licence, on en prend toutes les aspérités et on en fait les atouts de sa série. C'est aussi pour ça que Fallout est extrêmement réussi. Et c'est aussi, et c'est ça l'équilibre le plus dur, quand on fait une série avec de l'humour un petit peu caustique, on peut se perdre et les moments vraiment touchants, tristes, sont effacés par l'humour. Ce n'est pas le cas dans Fallout. Au contraire, l'équilibre est excellent là-dessus. Il y a vraiment des moments dramatiques et on prend le temps d'y réfléchir, on prend le temps de voir toute l'horreur de la guerre. Fallout, ça va vraiment vous transporter, vous faire réfléchir, vous faire adorer les personnages principaux qui sont très très bien écrits. On a aussi une redéfinition de l'héroïsme. Et vraiment, il y a une scène à la fin où on est emporté par le souffle épique de la série. Et ça n'arrive quasiment plus, parce que souvent on a l'impression que ce côté héroïque et souffle épique ne doit pas exister. Le final de la saison 2 vous montre ce que c'est que l'espoir dans un monde détruit. On vous le tease depuis un moment, on vous dit presque que cet espoir a été annihilé, et quand il arrive, c'est l'espoir, justement, qui se répand sur un peuple opprimé et désespéré. En fait, Fallout réussit en reprenant une licence des années 90, réussit en tout point là où Star Wars a échoué, c'est-à-dire honorer son passé, renouveler son présent et donner l'espoir pour le futur. Donc, vous l'avez compris, Fallout saison 2 est une excellente série. Votre temps est précieux, chers auditeurs, je vous conseille de le dépenser devant Fallout. Vous ne serez pas déçus.
Et quand il aime, il ne compte pas, notre homme de loi des séries, Grégory Combe. Il s'est épanché sur Fallout, la saison 2, que vous pouvez voir, je vous le rappelle, sur Amazon Prime. Et c'est Ramin Djawadi qui a composé la bande originale de cette série. Les espaces post-apocalyptiques pour ceux qui allaient le devenir peut-être. C'est aussi le titre américain de ce film qu'on connaît mieux en France sous le titre de La Poursuite Infernale. Oh my darling Clementine, une fameuse mélodie de l'Ouest américain adaptée par Cyril Mockridge, celui qui a composé le reste de la musique du film de John Ford qui est sorti en 1946. C'est quoi La Poursuite Infernale? C'est règlement de compte à hockey choral. C'est les frères Earp et Doc Holliday qui vont en découdre avec une autre famille. Ah, des méchants odieux. Odieux, c'est méchant. Heureusement, Henri Fonda et Victor Mature sont là.
À ne pas confondre avec La Poursuite impitoyable.
Oui, non. On parle. Vous semez le trouble déjà dans l'esprit. Voilà. Avec votre intervention, vous semez le trouble.
Je sais que c'est le film préféré de Laurent Martin qu'on embrasse.
Règlement de compte à Hockey Chorale, ça aurait pu être aussi le titre de film. Ouais. Alors, vous pouvez le voir grâce à la Cinémathèque de Toulouse, et c'est au Pathé Wilson. Et vous pouvez le voir mardi 10 mars à 19h30. Et vous savez que vous pourrez y aller, invité par l'ouvreuse, à condition de lui laisser un petit mot ou sur sa page Facebook, ou alors lui envoyer un petit mail, cinéma@radioprésence.com. Tout est dit. Allez, on continue rapidement notre tour d'horizon des reprises sur le grand écran avec La Planète des Singes, l'affrontement. Ah, ça c'est réussi. Oui, j'en vois qui boudent leur... qui font grise mine. Non, celui-ci est réussi. La Planète des Singes, l'affrontement, un film... sorti en 2014 de Matt Reeves, qui reprend en fait l'histoire qui était, vous savez, puisque La Planète des Singes a fait l'objet d'un reboot, puisque c'est dans les années 60 qu'on a vu les premiers films de La Planète des Singes avec Charlton Heston dans le rôle de cet homme perdu dans l'espace qui revient sur Terre, peuplé par des singes qui ont acquis... de la conscience et de l'humanité plus que les hommes eux-mêmes. Eh bien, là, ça reprend la bataille de la planète des singes. On en est au moment où les singes, les hommes vont s'affronter et les singes vont être confrontés au racisme, à la violence et puis il va y avoir donc ce moment où ils vont acquérir un esprit, une âme même. La Planète des Singes, l'affrontement, c'est à voir en VO dimanche 8 mars à 19h au Pathé Labège. Happiness Therapy, c'est le film de David Russell, formidable, avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Comment un bipolaire incarné par Bradley Cooper arrive à se soigner alors que son père lui passe son temps à jouer et à vouloir gagner plein d'argent pour ouvrir un restaurant. Son père c'est Robert De Niro et il va tomber amoureux de qui? De Jennifer Lawrence. C'est toujours au Pathé Labège, mais là ce sera le lundi 9 mars à 21h. Oh, partir sur la route dans un combi Volkswagen, ça le fait. Le film de Jonathan Dayton et Valérie Faris, Little Miss Sunshine, dans sa version originale. Le film avait coûté la bagatelle de 40 millions, je crois, quelque chose comme ça, trois fois rien. Même pas 8 millions, je dis des bêtises, 8 millions de dollars, et il en a rapporté 100. Et un grand succès au box-office. On a découvert Abigail Breslin et puis une formidable distribution, Greg Kinnear, Tony Collette, Paul Dano et Alan Arkin. Lundi 9 mars à 20h en VO au Pathé Wilson, Out of Africa, qui n'est plus à présenter, 1985, Sidney Pollack, Meryl Streep, Robert Redford. Le mari volage, c'est Klaus Maria Brandauer. Et le film est à voir dimanche 8 mars en VO à 18h. Au VO de Muret. À Saint-Gaudens, on jouera à Jumanji. Faut faire gaffe, parce que quand on commence à jouer, il faut finir la partie. Sinon, on est coincé. Ça, c'est au Régent de Saint-Gaudens, le 7 mars, en VF, à 14h30. Et puis, un très grand film de Youssef Chahine.
Ah oui, réalisateur égyptien.
Formidable. Le destin de un film de 1997... C'est un film extraordinaire sur Averroès et ce qui s'est passé dans cette partie de l'Espagne, tout le sud de l'Espagne, au moment où elle était occupée par les Arabes. Et Averroès, formidable philosophe, il est extraordinaire. C'est Mahmoud Eimeda, Safia El Emari qui incarne Averroès. Utopia, Borde Rouge, le destin. Voilà pour les reprises sur le grand écran. Sur le petit, c'est avec vous, Guillaume.
Le ciné à la télé commence dès ce soir, 21h sur Arte, avec Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Pour échapper à son époux violent dont elle divorce, une femme décide de déménager avec ses enfants, mais l'ex-mari tente de découvrir sa nouvelle adresse d'une maîtrise épatante, un drame terrible sur les violences conjugales. Vendredi 21h05 sur France 5, on pourra voir ou revoir Adieu Poulet de Pierre Granier de Fer avec le duo mythique Lino Ventura, Patrick Devers. À Rouen, en pleine campagne électorale, un policier est abattu lors d'une bagarre entre couleurs d'affiches. Le commissaire Verja mène l'enquête et tente de prouver la culpabilité d'un truand. Un polar captivant et nerveux servi par un casting impeccable. Dimanche 21h10 sur TF1 série film L'excellent 8 femmes de François Ozon avec Daniel Darieux, Catherine Deneuve, un casting 5 étoiles. Dans les années 50, Suzon, étudiante en Angleterre, rentre en France pour les fêtes. Elle retrouve sa mère Gabi, sa sœur Catherine, sa grand-mère Augustine. Et peu après, bien le maître de maison est retrouvé poignardé dans son lit. Un huis clos et une fantaisie délicieusement acidulée. Lundi 20h55 sur Arte, ce sera le journal d'une femme de chambre de Louise Buñuel avec Jeanne Moreau, Michel Piccoli. Célestine arrive de Paris pour prendre une place de femme de chambre chez les Monteil. Elle fait connaissance de la patronne puis de son père, une satire féroce et jouissive des mœurs bourgeoises. Enfin, mardi 21h05 sur Gulli, votre chaîne préférée, Louis-Marie, je crois. Oui ?
Je dors devant.
Vous dormez devant. Ne dormez pas devant Shaun le Mouton, film d'animation de Mark Burton et Richard Starzac. Shaun le Mouton rêve de changer d'air et joue un tour à son fermier avec l'aide de ses amis. Mais la blague leur échappe et le fermier se retrouve hospitalisé en ville. Les moutons se lancent alors à sa recherche. Mais la ville est pleine de dangers. Un film d'animation en stop motion drôle et rythmé. Mon conseil Blu-ray, ce sera, nous l'attendions depuis longtemps, Warner Bros. A enfin exaucé nos vœux. Le chef-d'œuvre d'Alan G. Pakula, Les Hommes du Président, débarque aujourd'hui dans une édition Blu-ray 4K Ultra HD Steelbook Collector, marquant les 50 ans du film qui a marqué l'histoire du cinéma et du journalisme, adapté du livre des journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward. Eh bien, le film va raconter l'enquête haletante qui a révélé le scandale du Watergate et a conduit à la démission de Richard Nixon. Plus qu'un simple thriller politique, le film est une éloge du journalisme d'investigation porté par l'alchimie incroyable entre Dustin Hoffman et Robert Redford et un scénario ciselé à retrouver chez Warner Bros. Pour 29,99€. Et mon conseil de lecture, eh bien, ce sera la revue culturelle trimestrielle Rockyrama, destiné aux cinéphiles et dédié notamment au cinéma américain, qui propose son numéro du 4 mars. Donc aujourd'hui, aux 50 films que vous n'avez peut-être jamais vus, mais que vous devez absolument voir à l'occasion de son 50e numéro, Rockyrama vous concocte une sélection très spéciale. 50 films que vous n'avez peut-être encore jamais vus, à découvrir donc ou à redécouvrir, c'est selon. 50 films hors des sentiers battus, discrets, oubliés, inattendus, qui n'ont pas toujours reçu les honneurs qu'ils méritaient ou ont rarement, voire jamais, été abordés dans leurs pages. À retrouver chez votre marchand de journaux pour 14€. Voilà, tenez, je vous l'offre.
Prochainement dans votre cinéma, un mystère. Ou plus exactement, un film mystère. Quel film, me direz-vous ? Je ne peux pas vous le dire, justement. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que c'est une comédie. Je peux aussi vous dire que le duo de réalisateurs de ce film viendra vous le présenter en avant-première. Donc si, comme moi, vous voulez résoudre cette énigme, réservez vite vos places sur le site de votre cinéma ou directement en caisse. Enfin, moi, pour la peine, je vais pas prendre une place, vu que j'ai déjà vu le film. Je l'ai même fait. Enfin, je l'ai co-fait, puisque je l'ai co-réalisé, puisqu'on est deux. Et vous suivez ou quoi ?
Vous avez suivi, donc, une avant-première mystère, avec comme invité les deux réalisateurs du film. Vendredi 6 mars à 20h30, c'est au VO de Muret, et il ne vous en coûtera que 6,50€. Un risque à prendre pour une bonne surprise, peut-être. Et tiens, avant d'en revenir à traverse... rock psychédélique kurde. Eh oui, ça existe, le nom du groupe c'est Tavi. Et vous pourrez voir Tavi samedi prochain, 7 mars à 18h30, sous le chapiteau de l'Agite à Balma. Eh, pourquoi donc? Eh bien parce qu'ils font l'ouverture, mais pas tout seul, avec d'autres. Il y aura deux autres groupes avec eux, en tout trois groupes. L'ouverture donc de Ciné Palestine qui se tiendra du 9. Alors, cette ouverture musicale, c'est samedi 7, donc à 18h30. Et l'ouverture cinématographique, c'est lundi 9 mars à 19h au cinéma American Cosmographe. Mais nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce qui va se passer à partir de mercredi prochain. Les 29e rencontres internationales traversent, et nous sommes avec Simone Dompère, sa directrice artistique. Il nous reste quelques minutes encore, Simone. Faites-nous rêver, faites-nous partir. Parce que quand on feuillette le programme, c'est assez impressionnant. Comment arrive-t-on d'abord à trouver tous les gens que vous allez nous permettre de découvrir, et ensuite, comment ne pas se perdre dans les méandres de ce programme, tellement il y a de choix et de choses à découvrir?
Mais se perdre est bénéfique, on trouve ce qu'on ne cherchait pas.
Eh bien, justement, alors...
c'est très philosophique, tout ça.
Nous cherchons... trouvons ensemble.
Et on, comme l'expérimental est une large palette, il faut aller voir un petit peu les teintes, les couleurs, les coloris, et comment le pigment se mêle pour d'autres images. Comment je les reçois, 800, 900 à peu près, par inscription sur le net. C'est un appel d'œuvres, c'est pour ça qu'il y a tant d'étrangers. On a une très très bonne réputation, vous savez, les prophètes qui sont pas de leur pays. Donc beaucoup de réponses, et je vois et je revois jusqu'à 10 fois certains des films. Et il y a certains films de footage, vous savez, comme on est avec l'ouvreuse là, oui, ce soir. Il y en a deux qui devraient au moins vous plaire parmi tous les autres, mais parce que je les mêle. Je mêle des films d'ici et d'ailleurs. Et comme ils arrivent avec parfois des préoccupations, il y en a même deux qui ont le même titre, qui sont très très différents. Donc il y a des préoccupations qui se retrouvent de quelqu'un qui habite l'Australie, d'un autre qui habite la Syrie, parce que ce ne sont pas des films simplement coincés sur le moment. Et même s'il y a des films qui se posent les questions de la guerre, un film d'Iran, j'ai un film de Syrie, je viens de le dire. Et donc ces films m'obligent à les rassembler, à faire des échos, des rencontres, des provocations. Et j'ai trouvé par exemple un film qui répondait d'une autre manière à beaucoup concernant l'eau, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'écologie, comment elle va. Et se posant la question que l'expérimental est d'emblée, reprenant les pellicules de films déjà tournés, qui est de la récupération, par exemple, ou en inventant des produits qui ne sont pas chimiques pour développer, et d'autres choses encore. Et donc, il y a au moins deux films que je pourrais vous inviter à venir voir. Bon, tous, il y en a 100. Il y en a 30 qui ont été tournés en pellicule, une vingtaine IA. Et il y en a deux qui devraient vous ravir, dont l'un est aussi en installation, puisque j'aime que l'on voit la différence d'approche des films. Lorsqu'on les voit, par exemple, quand vous parlez à la télé, ce n'est pas la même vision, même c'est le même film. Donc il y a une transformation, ce trans qu'on disait tout à l'heure, une transformation selon la posture, selon d'où vient la lumière, le grand écran, etc. Donc il y a un film qui est aussi en installation, il s'appelle Bubble Bath, et ce sont 200 plans de salle de bain. Donc il y a tous les genres, toutes les sortes, donc qui peuvent faire craindre, ou qui amusent, c'est un vrai bain de plaisir, j'oserais dire, c'est facile comme métaphore. Et puis il y en a un autre qui a pensé que finalement on courait beaucoup dans le théorème, faut-il dire de qui il est, je ne pense pas.
Non.
Et bien qu'on en gagnera une place de plus pour aller au pâté, voilà, si vous découvrez.
Et si vous le découvrez.
Et donc exactement, à travers, de toute façon, tout étant gratuit, vous allez gagner. Ah. Donc on court beaucoup dans Théorème, Et ce sont toutes les personnes qui courent sur la pelouse de cette grande maison, dans la gare, etc. Et ça fait, alors je ne vous dis pas parce qu'il faut venir le voir, et ça fait penser combien tout se condense dans cette cherche éperdue vers ce qu'on n'atteint pas. Ce qui est un résumé, me semble-t-il, de théorème, même si il n'y a pas la course vers le ciel quand la gouvernante s'envole. Donc il y a comme cela des films d'ici, des films d'ailleurs, des films qui reprennent la pellicule, qui sont dans le frémissement de l'histoire. Tout à l'heure, en hors cadre, là, je vous disais que j'avais beaucoup... j'avais écrit, et pourtant c'est très tendre, c'est très émouvant. C'est un haltérophile qui chante près d'une piscine, des chants d'opéra. Donc c'est un film en quatre moments très 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 étrange. Et puis il y en a.
On ira les découvrir.
Voilà. Et puis il y a, on parlait de Miaï, donc Papillon, puisqu'il y a effectivement de l'animation à travers. Il y a toujours d'animation.
Traverse les 29e rencontres internationales, 11 au 31 mars. traverse-video.org. Simone Dompère, merci. Il va falloir se quitter. Monsieur.
Me couture la maison des femmes. Allah n'est pas obligé. Traverse vidéo, évidemment. Et cinéma Palestine.
Laetitia ?
Oui, je n'ai pas encore changé de sexe. Pour moi, ça sera aucun autre choix de Park Chan-wook et puis la maison des femmes aussi, oui, de Mélissa Godet.
Allez, au revoir.
Comment elle vient pas.
Le carême est un temps de dépouillement, un temps pour aimer davantage, pour donner autrement. Par votre don à Radio Présence, vous posez un geste